Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphren.
Tenez un bon exemple de myopie médiatique. On parle de manière obsessionnelle de cette réforme des retraites qui, à la vérité, hein, plusieurs chroniqueurs ont pu le dire, n'en est pas une. C'est vraiment une réforme à minima qui aurait pu passer par décret. On est en tout cas dans cette ambiance de grand chambardement. Mais ce grand chambardement n'est rien au regard de deux révolutions qui passe tout à fait inaperçu dans les médias, et c'est bien dommage. On va s'y attarder, bien sûr, pas forcément aujourd'hui. Au fil des émissions qui vont suivre, on parlera en particulier de ChatGPT version 4. L'automatisation, l'intelligence artificielle va détruire des millions d'emplois et des millions d'emplois de cotisants, de ceux qui devraient justement cotiser donc pour nos retraites. Et ça, ce n'est absolument pas prévu par les experts qui travaillent sur le terrain. Et puis, il y a une autre révolution, c'est celle, bien sûr, qui est liée au climat. On a vu le GIEC, on en a parlé ce matin, et le guide de survie du GIEC pour l'humanité, qui nous dit qu'on a 27 ans pour nous armer, changer nos habitudes, et en particulier changer notre temps libre. Et Édouard Reblot nous disait tout à l'heure qu'on ne peut plus prendre un billet d'avion pour aller à Barcelone, au Portugal ou à Rome, comme ça, pour aller dépenser son temps libre contre le climat, contre l'impact carbone. Voilà deux exemples. Et puis, il y a une autre actualité qui est passée quand même inaperçue et sur laquelle on va parler ce matin, de laquelle nous allons parler ce matin. J'y tiens beaucoup et ça tombe bien parce que l'air devenant irrespirable dans les rues entre poubelles et lacrymogènes, il y a une bonne raison de prendre le large. Et on va le faire avec Olivier Poivre d'Arvor. On va hisser les voiles et sillonner ce continent liquide de la haute mer dont on parle si peu et qui vient de faire l'objet, début mars, d'un traité international de protection qualifié d'accord historique. 190 pays au niveau des Nations Unies vont définir les aires maritimes protégées, les règles du jeu surtout pour accéder à des activités aussi bien dans la colonne d'eau que dans le sous-sol, et donc que ce puisse être validé par des normes et que n'importe qui ne puisse pas y aller n'importe comment. Peut-être que les Chinois sont d'ailleurs concernés par ça. Et après tout, si on se servait de l'écologie pour endiguer la Chine, c'est une question que l'on peut peut-être poser. Bonjour Olivier Poivre d'Arvor.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain diplomate, ça on le sait. Ah oui, je voulais parler aussi de la situation en Tunisie, parce que vous avez été ambassadeur en Tunisie. Ça va très mal en ce moment en Tunisie. Vous êtes ambassadeur chargé des pôles et des enjeux maritimes. Vous êtes l'envoyé spécial du président de la République pour la conférence Océan des Nations Unies. Donc vous avez suivi cela au premier chef. Peut-être d'abord, pour tout de suite écarter peut-être le sujet et aller sur les sujets environnementaux, sur la Tunisie, est-ce qu'on risque un chaos migratoire là, en ce moment, au moment où on parle ?
Vous êtes déçu parce qu'il y a, un vrai devoir de réserve qui s'applique aux ambassadeurs qui ont quitté leur poste.
Oui.
C'est mon cas il y a deux ans, j'ai adoré ce pays. On l'a...
2016-2020 ?
Oui, c'est ça. On l'a beaucoup rêvé, évidemment, sur la rive nord, comme étant un pays qui allait rejoindre le camp des grands pays démocratiques... C'est tout le printemps arabe qui est questionné à travers ce qui se passe partout, d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'ai un très, très bon successeur. Interrogez-le, voilà.
Oui, voilà. Bah écoutez, on va se réserver cette possibilité. Est-ce qu'on peut simplement savoir s'il y a une dose d'inquiétude ou de préoccupation ? Dans le langage diplomatique, d'ailleurs, il y a toute une hiérarchie dans le langage. Hein.
Non, il y a en tout cas...
La France n'est pas prononcée.
Non, il y a un sujet... plus général de la relation entre la rive sud et la rive nord. Ouais. On ne peut pas dire qu'à travers les décennies, malgré la construction des édifices de Lyon pour la Méditerranée, ça soit si simple. On a essayé tous les mécanismes, ce qu'on appelle les 5 plus 5, qui réunissent 5 pays de la Méditerranée du nord et du sud, etc. Il y a peut-être une bonne nouvelle, parce qu'il faut trouver des bonnes nouvelles. C'est que,
surtout sur cette antenne.
Oui, surtout, exactement. Surtout que nous avons en partage cette mer Méditerranée. Je pense que finalement, un jour ou l'autre, il faudra bien que ces pays, non pas pensent ensemble, mais construisent ensemble, parce que les uns et les autres vont être frappés de la même manière par ce que vous évoquiez, c'est-à-dire les effets du changement climatique. Ça pourrait être un point d'accord. En tout cas, c'est vrai que la question de la migration, pour vous répondre plus généralement, c'est un vrai sujet. Et pas uniquement à travers la Tunisie, à travers la Libye. Moi, quand j'étais là-bas, en effet, il y avait près de 400 000 personnes qui étaient au bord du littoral libyen prêt à partir. Plus généralement, le vrai grand problème, c'est celui que vous évoquez, c'est en effet ces peuples qui sont au sud, qui, voyant qu'au nord, il y a des médicaments, pour leurs enfants, se disent « je vais aller les soigner », et c'est normal, c'est humain. Et ce drame sur lequel aucun diplomate ne peut se prononcer qu'autrement qu'avec beaucoup d'émotion. Donc, par exemple, l'action de tous ces bateaux SOS Méditerranée, ou d'autres, est une action qui quand même permet de sauver des vies. Et pour un marin, on doit sauver des vies. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un vrai drame humanitaire.
Le pape François participera aux rencontres méditerranéennes le 23 septembre. et qui traiteront certainement de cette question. Olivier Preuve, d'abord, sur l'accord donc, dont on a parlé, qui justifie votre présence aussi ce matin, hein, quand même, hein, même si la quantité
c'est
de sujets
liés,
voilà,
oui,
c'est quand même récent, et qui, je le disais, est un petit peu passé inaperçu. Alors en fait, si on doit être technique, c'est qu'il y avait un précédent accord, qui était celui de Montego Bay, qui remontait quand même à 1982, mais il y avait un trou noir, c'est cet immense continent liquide de la haute mer.
La mer, c'est compliqué, hein. Il faut expliquer à vos auditeurs qu'elle a été découpée par le fait des juristes en plusieurs tranches. Bah, imaginons, appelons ça une piscine, il y a le bord de la piscine. Alors, le bord de la piscine, c'est ce que les États ont, justement, en 1982, à travers Montego Bay, se sont distribués, en quelque sorte, ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, c'est-à-dire leur partie à eux, les 200 miles à partir de leur trait de côte, qui leur permet de faire ce qu'ils veulent chez eux. Et puis, il y a... La piscine elle-même, l'intérieur de la piscine, et c'est ça dont on a discuté, c'est-à-dire c'est la plus grande surface qui soit, c'est à peu près l'équivalent de 40% de l'ensemble de la surface du globe, qui n'avait pas fait l'objet d'une juridiction forte en tout cas. Et puis après il y a ce qu'on appelle le fond de la piscine, alors pour le coup c'est un autre sujet, et c'est en train de discuter, donc c'est très d'actualité, c'est les fonds marins dont on connaît 1% de la surface, et qui sont l'objet de grands débats entre les pays. Alors nous sommes contre, les Français, contre l'exploitation des fonds marins. D'autres ont très envie d'exploiter les fonds marins parce qu'il y a des nodules polymétalliques, des encroûtements comme baltifères.
Qu'est-ce qu'on fait avec les nodules polymétalliques sur lesquels on fantasme?
À mon avis, votre radio, elle en aura besoin. Mon portable, il en aura besoin. Toutes les batteries, notamment. Pour l'instant, on ne fait rien avec ces ressources minérales parce qu'elles ne sont pas autorisées à l'exploitation. Et donc, ce qui s'est passé, pour revenir à votre question, ce qu'on appelle la haute mer, c'est toute cette colonne d'eau, c'est considérable. Hein, c'est une masse d'eau qui est considérable, parce qu'évidemment, comme ça va souvent très profond. Et la circulation était libre, mais aussi la protection y était absente. Et donc là, l'humanité entière, c'est-à-dire les Nations Unies, c'est pas simple en ce moment, l'humanité entière, quand ils se rencontrent, quand on est en face de nous, les Russes, qui sont soutenus par les Chinois, aussi des oppositions entre le Nord et le Sud, les pays en voie de développement, etc., a décidé un traité avec notamment des partages de ressources génétiques naturelles qui va permettre de mettre ce qu'on appelle des aires marines protégées sur cette immense surface, donc de gérer voilà, les stocks halieutiques, mais aussi évidemment toutes ces ressources minérales qui sont très importantes, qui servent à la pharmacie, à la cosmétique et à plein d'industries.
Par rapport à l'espace maritime français, ces aires protégées, on sait déjà où elles sont, où elles nous concernent de près?
Alors, nous, on a notre zone exclusive économique
qui n'est pas concernée.
Les zones ne sont pas concernées. On protège, nous, dans notre zone à nous. Et en face ou à côté de notre ZE, oui, il y a des zones très importantes qui, pour l'instant, étaient très, très, très libres d'accès. Ça devrait permettre, d'abord, il faut que 60 pays ratifient. Et donc, en 2025, nous organisons un peu ce qu'est la COP climat, mais pour l'océan en France, à Nice, donc, qui s'appelle la Conférence internationale des Nations Unies, océan, laquelle devrait pouvoir mettre en œuvre ce traité. Et on aura 60 pays, j'espère, qui auront fait voter par leur Parlement ce que leurs délégués ont décidé de choisir à New York aux Nations Unies. À partir de là, commencera pendant 5 ans le découpage de toutes ces aires marines protégées. Alors il y aura plein de débats, je pense. Il y a des pays qui diront bah, pas trop là, pas, c'est en face de chez moi. Enfin, c'est un peu des questions de voisinage. Hein. Oui. Le balcon, bon non, ça me dérange, la vue, etc. C'est plus complexe. Et on ne parle pas de ces choses-là. On parle de beaucoup, évidemment, de milliards de dollars ou d'euros. Et on aura une terre-mer, en tout cas, qui sera, j'espère, protégée.
Quelle zone estimez-vous, Olivier Poirier, d'abord devoir être protégé en urgence? Est-ce qu'il y a des endroits que vous allez défendre particulièrement, vous?
C'est très difficile.
Je prends l'exemple juste de la Méditerranée. Oui. La Méditerranée est une sorte de lac intérieur.
Oui.
La part de la haute mer en Méditerranée, elle est importante ou faible?
Non, faible.
Bon, alors qu'est-ce qu'on va protéger en Méditerranée?
Oui, mais la Méditerranée, je vous rappelle, pas faire de la peine, moi je suis très méditerranéen de cœur, mais enfin, c'est tout petit.
Hein, c'est rien.
Oui, non, c'est vraiment...
Pas grand-chose.
Voilà, c'est pas grand-chose. Non, c'est considérable, mais c'est tout petit en surface.
Oui.
Non, pourquoi c'est tout petit? Parce que tout simplement, ben, vous avez la France qui a le ZE, puis en face, la Tunisie, l'Algérie, etc. Donc, il reste très peu d'espace commun, non partagé. Prenez évidemment le Pacifique, là, c'est un autre sujet. Prenez l'Atlantique, c'est un autre sujet. Il y a d'immenses zones, enfin, bon, c'est 40% en l'occurrence. Ben, ça va être tout le travail, en effet. Il y aura beaucoup de discussions. J'imagine qu'en mer de Chine, en Asie, avec toutes ces revendications déjà de souveraineté, entre les pays, la Chine, le Vietnam, la Russie, le Japon, ça va être beaucoup plus complexe. Ça va vraiment être de la haute couture. Voilà. Mais en tout cas, le costume est dessiné.
Il y a une image très, très médiatique, c'est celle de l'océan de plastique au cœur du Pacifique, avec le système des courants marins. On a des plastiques qui se baladent en permanence et qui, évidemment, donnent une image déplorable de la manière dont on gère ces océans. Est-ce que ça, c'est censé prendre fin avec les dispositions qui vont être prises? Ou est-ce que c'est...
Oui,
ça n'aura pas d'incidence?
J'allais vous dire, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que les poubelles à Paris. Et beaucoup plus dangereux. C'est une autre histoire, en fait. Les plastiques disent tout de notre rapport à la mer. C'est ces cochonneries qui sont rejetées par les terriens. C'est-à-dire que dans le fond, c'est la production de plastique à usage unique. Alors pour ça, 80% du plastique qu'on produit dans le monde va dans la mer. Et pour ça, donc, on a lancé depuis le One Ocean Summit à Brest l'année dernière, une négociation internationale qui se passe aux Nations Unies, donc Nations Unies pour l'environnement, et qui devrait permettre d'ici la fin 2024 d'avoir un traité interdisant la production de plastique à usage unique. Ça veut dire qu'il y en aura quand même beaucoup moins, beaucoup de microplastiques dans la mer. C'est un vrai drame, en effet, comme vous le dites.
Et les plastiques biodégradables, c'est une solution ou fausse solution?
Oui, il y a beaucoup de fausses solutions en ce moment, par exemple, mais la transition, elle est compliquée. Hein. Oui. Vous passez l'hydrocarbure classique, ce fuel, le fuel le plus dégueulasse, entre guillemets, j'emploie ce terme exprès, qu'on met dans les bateaux, vraiment, et au gaz naturel liquéfié, on a l'impression que c'est... Bon, mais non, on n'est pas arrivé au processus. Le GNL, c'est quand même de l'énergie fossile. Donc, il faudrait passer au méthane, il faudrait passer à l'hydrogène, etc. Donc, il y a du chemin, mais en effet, c'est déjà un point. Non, le point, c'est on ne produit pas, ce qui est la majorité, de plastique à usage unique. Quand l'Inde, la Chine, qui sont très favorables à ce traité, ou en tout cas qui l'ont aussi souhaité, auront signé, ça, on verra la différence, y compris dans ces zones dans le Pacifique, où en effet, ça donne le tournis. Mais plus que ça, encore le microplastique. Hein. Vous savez que chaque semaine, vous ingérez une petite carte de crédit de plastique en mangeant ce que vous mangez.
Les deux tiers des plastiques se trouvent en Asie.
Les deux tiers de plastique se trouvent en Asie, absolument.
C'est vraiment un phénomène...
J'étais
un petit peu polémique au départ. Je disais, est-ce que l'écologie, la protection des océans n'était pas un prétexte pour stopper, pour faire échec à la prédation chinoise? On se dit, on va sanctuariser tout ça avant que les Chinois mettent la main partout où ils le peuvent.
Non, alors non.
Et finalement,
non.
L'écologie a bon dos là-dedans, non?
Non. Non, enfin, je ne veux pas vous décevoir, mais je peux vous inquiéter si vous voulez, par contre. non, il y a la Chine, on va dire deux, trois choses bien connues. La Chine est un grand pays, de plus en plus grand pays, et la Chine est le plus grand pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis maintenant, en tonnage, depuis quelques semaines, la Chine est devenue le premier pays maritime au monde. La dernière fois que ça s'est passé, comme ça, un changement, c'était en 1945, quand les Américains ont pris le dessus sur la Royal Navy, donc les Britanniques. Donc c'est un changement majeur. Et dans quelques années, quand ils auront tous les sous-marins et tous les porte-avions que les Américains ont, en plus, ils seront vraiment la plus grande puissance maritime navale au monde et ils vont se déployer d'une manière ou d'une autre. Ils ont par ailleurs une flotte de pêche qu'on retrouve partout au large de l'Afrique. Ils ont acheté des licences de pêche. Donc le vrai sujet dont il faut parler avec les Chinois, c'est vraiment ce qu'on appelle la pêche illégale, illicite et non autorisée, et surtout la surpêche, voilà. Beaucoup plus que la production de plastique. Et là, vraiment, évidemment, il faut réguler ça, parce qu'on pêche un tiers du poisson qu'on pêche est jeté. Et donc, ce circuit de la surpêche, il est monstrueux, au-delà des espèces et puis l'épuisement des ressources halieutiques. C'est dramatique en termes de circuit.
Qu'est-ce qu'on fait, Olivier Poivre-d'Arvor, pour empêcher la surpêche, la pêche sauvage, les bateaux-usines qui viennent, par exemple, dans les eaux françaises, dans les TAF, hein, ouais. Les terres australes et antarctiques françaises, c'est un immense territoire au sud de l'océan Indien, enfin, dans le sud de l'océan Indien, et il y a des îles au nom poétique, hein, Crozet, Amsterdam, etc.
Saint-Paul,
que peu de Français peut-être connaissent, d'ailleurs, mais c'est quand même un territoire immense, les Kerguelen. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger?
Généralement...
On fabrique des bateaux, aujourd'hui?
Pour les surveiller.
Ouais.
On a quelques bateaux. La Marine nationale fait un travail formidable, enfin, elle est limitée. Non, la grande solution, et je pense que c'est ça dont on parlera aussi en 2025 sur cette conférence des océans, c'est la surveillance spatiale. En fait, aujourd'hui, c'est l'espace, c'est la surveillance spatiale qui va permettre... on peut, sans problème aujourd'hui, tout voir du ciel et voir ce qui se passe de manière... ce qui se passe, ce qui est illicite en mer. Encore faut-il que cette reconnaissance soit reconnue à un niveau international. Et donc, ce n'est pas parce qu'on met des drones ou qu'on a des satellites que les Chinois vont accepter les résultats de satellites. Non, il faut qu'il y ait un accord international sur ça, sur cette surveillance de l'océan.
Il n'y a pas que les Chinois, il y a aussi les Japonais, hein, qui sont très présents sur pêche.
Oui, oh, vous savez, il y a quand même pas mal de monde. Hein, mm-hmm. Pas mal de monde. Bon, nous, on est évidemment parfaits, parce qu'on est français, mais bon, pas mal de monde.
Les Français, justement, n'ont rien à se reprocher en la matière. Est-ce que nos
On nous reproche plein de choses. Hein. Les ONG nous reprochent le degré de protection de nos aires marines protégées. Les ONG nous reprochent d'être bretons et la pêche au chalut. Ben bon, un certain nombre de choses comme ça. Tous les pays aujourd'hui ont, depuis quelques années, compris que l'activité maritime était très polluante, que ce soit à travers le transport maritime, elle était très dégradatrice à travers la pêche. Je crois qu'il faut inverser le paradigme. Pour l'instant, la règle, c'était en mer, c'était l'exploitation. L'exception, c'était la protection. Maintenant, je crois qu'il faut que la règle, ça soit la protection. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de la mer pour toutes les raisons que vous savez, oxygène, puis carbone et autres. Et puis, monter des eaux. Si on a 30 secondes pour en parler, c'est important.
Oui, parce j'allais y venir, justement.
Vous êtes quand même là au sous-sol, hein, vu qu'on descendait. Oui, oui. Et j'ai quand même des très mauvaises nouvelles à vous annoncer pour Radio Notre-Dame en 2100. Hein, donc,
c'est vrai ?
Oui. Bah, normalement, vous êtes dans l'eau. Vous êtes sous l'eau. Comme plein d'endroits dans le monde. Le GIEC a sorti son rapport, vous l'avez vu, on parlait de 80 cm dans les rapports précédents, d'élévation du niveau de la mer au niveau global, en raison de la fonte du Groenland et hélas, ce qui se passe, une variable d'ajustement dramatique qui est l'Antarctique. Maintenant, c'est 1,20 m, d'ici 2100, 1,20 m, ça veut dire 800 à 900 millions de personnes qui vont être touchées sous l'eau, tout simplement. Normalement, 2300, et Radio Notre-Dame sera là encore. Ça sera en
c'est rien pour le temps de l'Église, hein, vous savez.
Oui, je sais, absolument. On travaille sur l'éternel. Donc, entre 6 à 10 mètres, là, on parle de 2-3 ouais. milliards de personnes qui devront partir. Et il y aura évidemment, non seulement nous serons sous l'eau, mais l'eau sera sous la terre aussi. Et donc, imaginez tout le réseau de câblage, d'électrique, de téléphonie. On va vers un drame. Et dans le fond, 2100, c'est quand même demain. 2300, c'est pas bien vieux. Hein.
Et même 2050, figurez-vous, ouais. Olivier Poirard-Darvor, des experts pensent que la quasi-totalité des 42 hectares de Paris, située à une quarantaine de kilomètres au nord de Jakarta, on est en Indonésie, mais ça s'appelle Paris et pas d'Est, pourrait être engloutie d'ici 2050. Il y a des zones qui vont déguster plus que nous avant.
J'en témoigne, il y a quelques jours, j'étais à Jakarta. C'est incroyable, on circule dans la ville, enfin une partie de la ville, sur des sacs de sable. Et on voit des immeubles qui ont été construits il y a 10 ans et qui ont été vidés parce qu'en effet, on les voit qui penchent légèrement comme la tour de Pise. C'est normal. Et la capitale va déménager. En tout cas, c'est la promesse du président d'ici 5 ans parce que c'est plus vivable. Mais qui va déménager ? Les autorités administratives et puis tous les gens qui sont les citoyens de Jakarta ordinaire. Ils vont se retrouver sous l'eau. Non, c'est dramatique. L'Indonésie est très frappée. Les îles du Pacifique, vous pouvez déjà chercher pour certaines d'entre elles le nom de code numérique, c'est-à-dire on va appeler ça tuvalu.com. Juridiquement, il faudra trouver des solutions pour que les habitants de Tuvalu aillent quelque part et puis existent auprès des Nations Unies en tant qu'État numérique. Et ce qui se passe dans le Pacifique va se passer évidemment dans le nord de la France, évidemment...
Ile-de-Saint.com, Molène.com aussi.
Oui, bien sûr. Bah,
parce que c'est très très bas, c'est quasiment au niveau de la mer. Hein.
À bas bruit, on n'a pas vu qu'il y a un certain nombre de collectivités territoriales qui, il y a maintenant un an, en France, ont fait le soin d'accepter d'être classées en zone dangereuse et qui sont menacées à très court terme. Il faut juste dire une chose, c'est que le drame, c'est que la mer s'approche de nous par tous les phénomènes liés au changement climatique, dont la montée des eaux, mais d'autres phénomènes aussi. Et nous approchons toujours d'elle. Donc à un moment donné, quand en 2050, vous aurez 75% de l'humanité vivant à 50 km d'un littoral, vous voyez ce que la rencontre entre les deux va produire.
La Bretagne risque d'être submergée. Il y a partie de la Bretagne.
Oui, pas tout, mais 1,20 m. De toute façon, submergée ou pas, l'activité touristique, elle est menacée déjà, première chose. Les plages vont disparaître. Vous me parliez de la Tunisie, j'y étais il y a quelques jours, j'ai, dans le centre de Tunis, enfin à la Marsage, j'ai vu une photographie qui datait de 30 ans, il y avait une immense plage sur un endroit où j'étais, où la mer léchait les maisons. Donc, ça va à une vitesse. Évidemment, Ça paraît tellement loin, 2050, alors qu'aujourd'hui, les gens...
C'est le temps médiatique.
Oui, mais c'est rien. C'est... Non seulement c'est nos petits-enfants, mais c'est quand même... On s'inquiète de l'avenir de la planète. L'océan a besoin qu'on parle plus de lui. On parle beaucoup du climat. Et le nexus, l'organisation entre le climat, la biodiversité et l'océan, c'est la même affaire. Et la plus dangereuse des choses, ça va être l'océan. Voilà. Aujourd'hui, c'est le climat, en effet. Mais c'est relié, et ça, évidemment, produire pas l'immersion du monde.
Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait un refroidissement brutal pour que les choses s'inversent.
Alors, c'est dû à quoi ? C'est dû à la fois à l'oxygénation, au réchauffement aussi de l'eau, évidemment. Et c'est dû, pour une large part, pour moitié, à la fonte de l'Inlandis groenlandais, que j'ai vu de mes petits yeux, comme plein de gens. Là, à la fin de l'année, j'étais en Antarctique et j'ai vu cet immense glacier, en effet, qui fait 5 fois Paris, qui se détache. On le voit là et on sait qu'aujourd'hui, c'est la grande inconnue. C'est est-ce que l'Antarctique de l'Ouest, ces glaciers vont fondre? C'est 80% de l'eau douce au monde, l'Antarctique. Si elle fond, elle fondra jamais totalement comme ça. C'est 67 mètres ou 69 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc, on ne se le souhaite pas, mais en tout cas, il est évident que si jamais ça s'accroît, ce phénomène-là, et les réchauffements, en tout cas de l'Antarctique, il y a des variations de température de 30 à 40 degrés d'une année à l'autre, hein, dans certaines stations, notamment chez nous à Concordia, une station que nous avons avec les Italiens, on est parti pour vraiment un drame. Et comme l'histoire de l'humanité, il y a eu les dinosaures, il y aura cette montée des eaux et de l'Antarctique.
Il n'y a pas eu de précédent, il y a le déluge dans l'imaginaire,
oui,
mais il n'y a pas le précédent de la montée des eaux.
Il n'y a pas de témoin. C'est-à-dire que il y a eu, évidemment, dans tout ça, c'est l'histoire qui nous remonte à quelques millénaires de la Pangée, de l'Afrique qui était collée à l'Amérique, etc. Et donc, mais non, il n'y a pas eu de hauteur d'homme, si j'ose dire. Il n'y a pas eu un phénomène pareil. Et il va se produire à des échelles plus ou moins importantes. Et là, il faut... Et alors, on ne peut rien faire contre la montée des eaux. C'est-à-dire qu'on peut juste créer des barrages, on peut essayer de se protéger. C'est comme les châteaux de sable qu'on fait quand on est gamin au bord de la plage. Et donc, il faut être plus vertueux pour qu'il y ait moins de carbone. Mais les effets, après, ça prend des dizaines d'années.
Une dernière question, Olivier Poivre-d'Arvor. Vous êtes ambassadeur, donc, au titre de la France. Est-ce qu'à l'échelle de l'Union européenne, tout le monde est déjà d'accord sur le sujet? Est-ce que ça pourrait permettre de parler d'une seule voix sur ce terrain?
Non, c'est très important ce que vous dites. Nous ne sommes pas assez nombreux. L'Union européenne, c'est une force très importante vis-à-vis, en effet, des négociations vis-à-vis de la Chine. Sur le sujet polaire, précisément, c'est Michel Rocard qui avait créé cette fonction. Je lui ai succédé indirectement, ce qu'il y a eu entre-temps, Ségolène Royal. Mais au-delà de ça, nous allons normalement, au mois de novembre, cette année, à Paris, organiser le premier sommet polaire international pour essayer de mettre les nations d'accord sur ce constat entre elles, que ce soit de l'Arctique ou de l'Antarctique, avec des systèmes extrêmement différents, pour qu'il y ait au moins cette conscience dans la tête des politiques et de l'opinion publique de ce drame, de cette fragilité des mondes polaires qui nous paraissent très lointains, mais qui sont vraiment aux portes de nos maisons aujourd'hui.
Merci beaucoup d'être venu, de nous en avoir parlé, d'avoir été notre invité dans Le Grand Témoin ce matin. Olivier Poivre-d'Arvor, envoyé spécial du président de la République pour la conférence Océan des Nations Unies. On parlera de celle de Nice, donc qui aura lieu, c'est notre horizon, en tout cas l'horizon de notre discussion aujourd'hui. Et bien sûr, écrivain, diplomate, ambassadeur chargé des pôles et des enjeux maritimes. Il y aura encore beaucoup de sujets sur les enjeux maritimes de la France, mais ce sera pour une autre fois.
Et
merci.
Vous connaissez en plus. Merci.